Une opération de sécurisation et de contrôle en centre-ville de Nouméa, menée par les forces de l'ordre ce midi. Au menu pour la soixantaine de personnels engagés, hygiène, sécurité, travail dissimulé, contrôle de stupéfiants et d'identité. Aircal envisage de déplacer le trafic domestique de Magenta vers Tontouta et de fusionner avec Air Calédonie International. Le membre du gouvernement Samuel Népéoun était à Lifou, accompagné par la direction d'Aircal pour informer les habitants. L'économie calédonienne est toujours en grande souffrance. C'est le constat dressé par une enquête de la CCI et une note de conjoncture de l'IEOM. Nous y avons consacré nos jeudis de l'économie ce midi. Une journée pour sensibiliser le grand public. L'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie était présente au Dumbé à Mol pour réaliser des dépistages à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin. Le sport avec le cricket, troisième défaite consécutive pour l'équipe de France au tournoi international féminin. Les Françaises se sont inclinées 115-59 face aux Fidjiennes. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Manuel Valls revient en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois. Le ministre des Outre-mer sera sur le territoire entre le 29 mars et le 1er avril pour un déplacement de 4 jours. Mais auparavant, il effectuera un voyage aux Antilles du 14 au 19 mars, Jean-François Baudin.
Manuel Valls, qui était par ailleurs auditionné mercredi après-midi par la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Il a notamment été interrogé sur les propos qu'il avait tenus en Nouvelle-Calédonie concernant l'émancipation d'un peuple premier et le lien avec la France. La réponse du ministre des Outre-mer.
Quant au lien avec la France, il est là. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie pour affirmer trois principes. La protection que nous devons à tous les néo-calédoniens, 20 escadrons de gendarmerie, la police, des unités d'élite, GIGN et RAID, une action très déterminée de la justice pour aller jusqu'au bout vis-à-vis de ceux qui ont commis les destructions, les responsables de ce qui s'est passé en mai et en juin, bon, les responsables directs, et ce devoir de protection extérieure et intérieure, il est là pour longtemps, pour dire que nous soutenons l'économie, plus de 2 milliards de dégâts et de destructions, les centaines de millions que la France injecte depuis longtemps et encore davantage depuis presque un an. Donc c'est ça la manifestation de la présence de la France. Un engagement qui m'est très personnel, parce que ça avait déjà été le cas en 2015-2016 sur la question du nickel. Et c'est un élément stratégique. S'il y a un élément stratégique qui doit créer les conditions du lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie, c'est bien le nickel. La condition de réussir est d'avoir une nouvelle stratégie dans ce domaine. Donc la France est présente.
Et le ministre des Outre-mer a également évoqué la préparation d'un accord politique.
Maintenir l'ordre, c'est évidemment les forces de sécurité intérieure et extérieure. C'est le redressement de l'économie, mais c'est aussi un accord politique sur un territoire où on voit bien qu'il faut faire vivre des logiques différentes. L'aspiration à la décolonisation, nous devons aller jusqu'au bout, à l'émancipation du peuple canadien. C'est le seul territoire qui est aujourd'hui encore en voie de décolonisation. C'est ainsi, c'est une réalité, c'est une insulte pour personne. Et faire vivre ensemble ceux notamment qui aspirent, et qui l'ont dit par trois référendums, par trois fois, et qui aspirent à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française. Donc c'est cette logique-là. Et si nous réussissons cela, c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre, on franchit déjà deux étapes de dialogue. Maintenant, il faut rentrer dans la phase de négociation, et je m'y rends a priori de nouveau dans quelques jours, à la fin du mois. À ce moment-là, ça sera aussi un élément important pour garantir notre présence, mais sur des bases politiques, institutionnelles, et j'oserais dire morales, qui seront à la hauteur de ce qu'est la France et de son histoire.
Manuel Valls qui s'exprimait devant la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale en répondant au député RN de la Drôme, Thibault Monnier, le ministre des Outre-mer qui sera donc sur le territoire entre le 29 mars et le 1er avril.
La police sur le terrain à la pause déjeuner dans le centre-ville de Nouméa pour effectuer une opération de sécurisation et de contrôle. Une soixantaine d'agents ont inspecté durant plusieurs heures le quartier de Chinatown qui était pour l'occasion quadrillé par la police nationale mais aussi municipale. La direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la direction des risques sanitaires de la ville de Nouméa étaient présentes. Nakamal, magasins, véhicules, passants, tout le monde était susceptible d'être contrôlés. Et bilan principal des opérations, 6 interpellations pour possession de stupéfiants, de l'argent liquide et de nombreux sachets de cannabis saisis. Les auteurs des faits ont été placés en garde à vue. Et un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, car Chinatown est réputé pour être un gros point de deal, explique le contrôleur général Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale.
Ce quartier est un lieu où il faut être attentif à l'insécurité, être attentif à toute forme de délinquance, comme la vente de stupes. C'est un de nos objectifs avec le haut commissaire, le maire et le procureur pour rendre, je dirais, la tranquillité à ce quartier. On monte cette opération en fin de matinée parce qu'évidemment, les gens qui sortent du travail sont ravis, j'imagine, et de voir de la police quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont déjeuner. Il est évident que, on va dire que le trafic du quotidien, le trafic qui se fait dans les rues de Nouméa, c'est en majorité de l'herbe de cannabis. Mais pas que, parce qu'on se rend compte avec une affaire récente qu'il peut y avoir aussi des produits stupéfiants de soirée, qu'on appelle de soirée, qui peuvent circuler, évidemment.
Pour les habitants du quartier, c'est un vrai soulagement de voir ce genre d'opération se mettre en œuvre.
Des fois, on a peur de passer là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais pas si... Tu vas prendre ton sac ou pas?
Non, c'est pour la sécurité, pour ici. Parce qu'il y a des jeunes qui vendent les cannabis.
Mais il y a trop de jeunes autour. Il y a caméra, il y a tout. Ça bouge pas assez. Voilà.
Ça permet de diminuer un peu la délinquance ici sur le quartier, ici, là. Parce que sur le quartier, je pense que... Il y a toujours des jeunes qui voient des trucs comme le cannabis et tout. Et cela permet de diminuer. Puis pourquoi pas en finir avec ça?
Avec ces dispositifs anti-drogue, l'objectif de la police est clair. Il faut occuper le terrain et se rendre visible des dealers pour lutter contre la délinquance et l'insécurité. Ce n'est qu'ainsi que les délits pour trafic de stupéfiants pourront baisser, souligne le contrôleur général Marjorie Ghisoli.
En matière de stupes, on ne sait que ce qu'on saisit et le travail qui a été mené l'année dernière et qui commence cette année démontre qu'il y a un marché, évidemment. Et donc à nous de faire en sorte que ce marché évidemment diminue, qu'il n'y ait pas de vente de cannabis dans les rues de Nouméa ou ailleurs, mais en tout état de cause, qui pose des problèmes d'insécurité aux habitants. Et ce type d'opération, encore une fois, on va les multiplier. Moi, je tiens à ce que la police nationale soit partout, que ce soit sur les baies, dans les quartiers périphériques et évidemment en centre-ville.
Durant près de 2 heures, 28 commerces ont été contrôlés. On notera également que plusieurs procédures ont été ouvertes, une pour étrangers en situation irrégulière, une pour travail dissimulé et une pour emploi d'un étranger sans titre de travail. 6 infractions ont aussi été relevées par la DAE. L'année dernière, une opération s'était notamment déroulée autour de Magenta, autre gros point de deal connu à Nouméa. Justice et 4 hommes arrêtés après la violente agression d'un militaire à Nouméa vendredi dernier. Les prévenus seront présentés au tribunal correctionnel le 6 mai prochain, indique le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué. Lionel Sabot.
Vendredi dernier, vers 21h, un homme déclare avoir été agressé en plein centre-ville. Plusieurs individus lui ont volé ses chaussures, son portefeuille et un téléphone après lui avoir porté des coups de pied, apprend-on dans ce communiqué. Transporté à l'hôpital, la victime présentait plusieurs fractures au niveau du visage et de la bouche avec des dents cassées, justifiant un nombre encore indéterminé de jours d'ITT. C'est grâce à l'exploitation des vidéosurveillances que les auteurs des faits ont pu être interpellés, précise le procureur de la République Yves Dupas. Les 4 prévenus compareront donc, vous le disiez, devant le tribunal correctionnel le 6 mai prochain. En attendant, 2 prévenus présentant des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, 75% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut instaurer de nouvelles restrictions à la vente d'alcool sur le territoire. Ils sont 25% à être d'un avis contraire. Et voici notre question du jour. Êtes-vous favorable au déplacement des vols Aircal de Magenta à Tontouta? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et justement, déplacer le trafic aérien domestique de Magenta vers Tontouta et fusionner Aircal et Aircalin, ce sont 2 pistes envisagées par le gouvernement pour sauver la compagnie domestique qui est financièrement au bord du gouffre. Le membre du gouvernement en charge du secteur, Samuel Népéoun, est allé ce matin à la rencontre de la population de Lifou, Jean-François Baudin.
Une réunion à l'initiative de l'air coutumière Djéhou pour que le membre du gouvernement, accompagné par la direction direction d'Erkel puisse échanger avec la population des îles. Samuel Népéoun a d'abord indiqué que la situation financière d'Erkel était catastrophique malgré un plan de sauvegarde mis en place après la crise Covid et un plan de restructuration porté par le 17e gouvernement après les émeutes.
Lorsque le conseil d'administration de la compagnie a arrêté ce nouveau plan de sauvetage de la compagnie, qui, je le rappelle, prévoyait 1 milliard de fonds réinjectés par la Nouvelle-Calédonie pour éviter le dépôt de bilan de Air Calédonie mi-2024, puis derrière un plan social très conséquent puisque on s'est séparé de 150 personnes, on a réduit la masse salariale de près d'1,2 milliard, mais également la réduction de l'activité de près de 40%, et puis location d'un avion à Air Tahiti, histoire de récupérer un peu de liquidité pour compléter ce plan de sauvegarde. Il s'avère qu'à la fin de ça, ça ne suffit toujours pas.
Ça ne suffit toujours pas et c'est la raison pour laquelle deux nouvelles pistes sont posées sur la table pour éviter la faillite, déplacer le trafic d'Erkel de Magenta vers Tontouta et fusionner les deux compagnies calédoniennes Erkel et Air Calédonie Internationale. Les échanges de ce matin à Lifou ont porté sur ces deux points.
S'agissant d'un sujet très sensible, par moments les discussions, les échanges ont pu être assez tendus, mais globalement c'était plutôt constructif. Il y a effectivement une grande réticence de la population. Tout le travail que l'on a conduit jusqu'à présent et qu'on a essayé d'expliquer ce matin, c'était de dire entre les réticences, entre on veut ci, on veut ça, ou on veut pas ci, on veut pas ça. Aujourd'hui, c'est une question de réalité budgétaire et financière. Les collectivités n'ont plus les moyens. Depuis mai 2024, c'est une question de survie ou de sauvetage de la compagnie Air Calédonie dont il est question. Entre le confort ou les réticences de la population, il y a aussi une question budgétaire qui est inévitable. Les comptes publics sont à sec. Il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel on aborde ces différents sujets est extrêmement contraignant, étendu. Il va falloir être très réaliste et être pertinent dans les choix qu'on va faire à l'avenir.
Aucune estimation chiffrée n'a été rendue publique sur les économies que permettrait de réaliser la fusion des deux compagnies aériennes calédoniennes, ni le transfert des lignes de Magenta vers Tontouta, qui pourrait intervenir dès le mois de juillet prochain.
En bref, les élus du Mont d'Or sont actuellement réunis pour un conseil municipal dominé par l'examen du budget primitif de la commune. C'est un budget de 5 milliards de francs qui avait été présenté le mois dernier lors du débat d'orientation budgétaire. Sont annoncés comme des priorités le soutien à l'économie et le maintien des aide sociale et particularité de la collectivité. Cette année, le budget devrait être établi sans recourir à l'emprunt. Notez que c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Quelle est la situation de la commune 10 mois après le 13 mai 2024? Va-t-elle pouvoir poursuivre les investissements et quelles sont ses priorités? Quel est son avis sur les discussions concernant l'avenir institutionnel? Sonia Lagarde, invitée de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis séance publique au Congrès demain à partir de 8h30. Les élus procéderont au débat d'orientation budgétaire à partir du texte adopté mercredi par le gouvernement. Un débat qui doit précéder de quelques jours l'examen du budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie dont l'adoption doit intervenir avant le 31 mars. Un autre rendez-vous sur notre antenne. Quel bilan peut-on dresser de la présence d'une délégation calédonienne au Salon de l'agriculture? Nous en parlerons demain matin avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Jean-Christophe Niotou sera en effet notre invité du matin à 7h30. L'occasion aussi de faire le point sur les différents sujets qu'il a abordés avec les différents interlocuteurs institutionnels qu'il a pu rencontrer au cours de son séjour à Paris, mais aussi à Bruxelles. 17h59, première pub dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB recherche un commercial performant. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La 6 Info Soir, Léana Colombo.
Les réseaux téléphoniques fixes et mobiles de l'OPT touchés par une panne majeure. En réalisant des travaux sur une ligne à Tomo, une équipe technique a malencontreusement touché le réseau de fibre optique. L'OPT informe ses clients que les services de téléphonie, d'internet, aussi bien sur le fixe que sur le mobile, sont impactés sur l'ensemble de la zone nord, les îles Loyauté et les communes de Païta et d'Umbéa. Le retour à la normale est estimé entre 18h et 20h ce soir. Une économie toujours en grande difficulté et pour l'instant sans perspective. C'était le thème des jeudis de l'économie aujourd'hui, à partir des données fournies par une enquête de la CCI et la note de conjoncture de l'IEOM sur le quatrième trimestre 2024, Jean-François.
Malgré quelques signes positifs mais légers dans certains secteurs, l'économie calédonienne reste en grande souffrance. Les émeutes du 13 mai ont mis gravement à mal un tissu économique déjà fragilisé par des épisodes compliqués, et notamment la crise Covid. Les chefs d'entreprise sont donc très inquiets, comme le montre un indicateur clé, c'est l'indice du climat des affaires, a expliqué le directeur de l'IEOM, Fabrice Dufresne.
Nos enquêtes trimestrielles de conjoncture, nous les réalisons depuis 1999. On interroge à peu près 200 entreprises, notamment pour évaluer, déterminer l'évolution de l'indicateur du climat des affaires. À fin décembre 2024, l'indicateur du climat des affaires est autour de 78. Alors, il remonte très légèrement par rapport au plus bas de 66 à fin juin, mais 66, c'était son niveau le plus bas que la Nouvelle-Calédonie n'avait jamais connu depuis qu'on réalise ce type d'enquête, premier élément. Et deuxièmement, c'est le niveau le plus bas de l'ensemble des Outre-mer. Alors, c'est vrai qu'on était parti d'un plus bas, il remonte progressivement. Cette progression s'essouffle un petit peu à fin décembre, mais ce qui est important, c'est qu'on n'est même pas encore au niveau de l'indicateur du climat qui était observé au moment de la Covid, qui était de 79. Là, on est à 78.
Un constat qui rejoint les enseignements que l'on peut tirer de la dernière enquête menée par la CCI auprès de ses adhérents sur l'évaluation de l'impact des émeutes de mai 2024. Enquête qui souligne la perte de confiance des entreprises, mais pas seulement, a souligné le président de la CCI, David Guyenne, qui a mis en avant deux autres difficultés.
D'abord, toutes les entreprises envisagent, anticipent déjà des difficultés de trésorerie. Et dans les 6 prochains mois, la moitié des entreprises vont jouer leur survie. Un autre point qui est important, c'est qu'effectivement, le tissu économique n'est plus le même, le marché n'est plus le même, et les entreprises voient bien qu'elles vont devoir s'adapter. La destruction du tissu économique est un autre enseignement fort, majeur de cette enquête, notamment avec deux types de populations, les entreprises individuelles et le secteur du BTP, puisque dans ces deux typologies d'acteurs économiques, le mode survie est déjà enclenché pour la moitié d'entre elles. Donc ce tissu économique qui est important pour créer de l'entrepreneuriat, qui est important socialement, qui est important pour des populations d'ailleurs parfois les plus vulnérables, sont les premières à être touchées, ce qui nous fait craindre ce qu'on appelle un effondrement systémique et économique.
L'enquête pour la CCI a été menée par l'Institut Quid Novi, dirigé par Stéphane Renaud. Cette enquête montre aussi que les conditions d'une éventuelle reprise sont pour l'instant compliquées.
On a quand même un tiers des entreprises qui nous disent qu'elles ne couvrent pas leurs charges, 50% dans le secteur du BTP. Demain, si effectivement les mesures de soutien s'arrêtaient, dans une économie qui est à l'arrêt, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie, c'est une petite économie. Elle n'a pas d'effet d'entraînement. Une économie de seuil, c'est 1,6 million de personnes. Aujourd'hui, tout a été cassé, dont acte, mais ça repart comment? Et ça ne va pas repartir en claquant des doigts. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Le risque de 2025, on ne peut pas prédire, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas dire ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre, parce que heureusement, la Calédonie a la capacité de rebondir. Mais plus le temps passe, plus on risque, un, le découragement, deux, des situations où, malgré la légende urbaine qui considère qu'une entreprise, c'est facile et puis tout va bien, une entreprise, c'est des charges certaines et un espoir de revenus. Quand on n'a pas compris ça, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise et qu'on n'a jamais été caution sur son patrimoine. Malheureusement, les entreprises, elles n'ont pas toujours de réserves suffisantes. Et si la situation perdure trop longtemps, on va au-devant de quelque chose qui sera pas très facile pour l'économie calédonienne.
L'enquête de la CCI et la note de conjoncture de l'IEM sont disponibles sur les sites internet respectifs de ces institutions. Notez que Christophe Dautieux, chef d'entreprise, participait également à ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu qui sont en réécoute sur notre site internet en audio et vidéo.
Le Conseil économique, social et environnemental était réuni ce matin à l'hôtel de Nouméa. Les conseillers ont examiné sur une saisine du président du gouvernement un avant-projet de loi de pays portant réaffectation provisoire de la taxe sur l'électricité et un projet de délibération relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie. Atem Belagi est le président de la commission du développement économique, de la fiscalité et du budget au CESE.
Le principe des deux textes, c'était la suppression de la taxe dite soleil, qui a été mise en place par amendement à la fin de l'année donc 2024, et qui a posé pas mal de débats, parce qu'elle met en cause un certain engagement du territoire vis-à-vis de ceux qui ont installé des installations photovoltaïques. Et donc c'était sa suppression dans le deuxième texte. Dans le premier texte, c'était pour remplacer donc cette recette-là, de affecter une partie de la taxe d'électricité qui s'appelle TE, au lieu de l'affecter à l'Agence canadienne d'énergie, de l'affecter à Enercal pour réduire le déficit du système électrique que subit sur sa trésorerie aujourd'hui Enercal.
Et sur les deux textes examinés, le CESE a rendu un avis favorable. L'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie était elle aussi réunie aujourd'hui à Bouloupari pour son assemblée générale. À l'ordre du jour, le bilan du déplacement du président de l'AFM, Pascal Vittori, à Paris en début d'année. L'économie et la reconstruction étaient au cœur de cette AG avec un point sur le financement des communes et la présentation de la Banque des territoires. Le membre du gouvernement, Christopher Gigé, était également présent pour évoquer la création d'un guichet unique reconstruction. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite encourager l'innovation dans le secteur de la construction. En 2022, un fonds pour l'amélioration et le développement de la qualité de la construction était créé. Il s'agit du fonds AQC. Son comité de gestion se réunissait pour la première fois ce matin. Assis autour de la table ce matin, la FCBTP, la FINC, la CPME, des bailleurs sociaux, des architectes et les représentants du COSODA, dont une part des taxes finance le fonds. Pour présider cette équipe, Petelo Sao, membre du gouvernement en charge du secteur de la construction. Et comme il l'explique, le fonds AQC a pour vocation de soutenir des porteurs de projets et notamment des propositions en lien avec des matériaux nouveaux.
L'innovation, elle va permettre de développer des acteurs locaux. C'est l'objectif de ce fonds AQC, c'est de soutenir des personnes qui ont des nouveaux procédés, des nouvelles façons de travailler, mais surtout de valoriser aussi des matériaux nouveaux. L'idée, c'est vraiment de développer des filières de matériaux nouveaux, de valorisation aussi de déchets qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie qui peuvent améliorer la qualité des constructions en Nouvelle-Calédonie. Je pense bien évidemment aussi à la valorisation des déchets comme la scorie, qu'on produit beaucoup ici en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut valoriser pour développer des circuits courts, développer aussi un développement durable des constructions en Nouvelle-Calédonie et de l'amélioration de ces constructions.
Le comité de gestion du fonds AQC se réunira tous les trimestres pour étudier les demandes de financement qui lui sont transmises. Passons à l'actualité dans le Pacifique. À Port Moresby, le Parlement papou vient de voter un amendement constitutionnel reconnaissant le christianisme comme la religion officielle du pays. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le projet d'amendement de la Constitution a recueilli une écrasante majorité de 81 voix pour et 4 seulement contre. De plus, le christianisme sera désormais inscrit dans le préambule de la Constitution, tandis que la Bible sera reconnue comme symbole national. Fervent défenseur du projet, le premier ministre papou, James Marape, s'est dit satisfait du résultat. « Je suis heureux », a-t-il dit, « car cet amendement constitutionnel reconnaît enfin notre pays comme un pays chrétien » et reflète au plus haut point le rôle que les églises chrétiennes ont joué dans notre développement national. Elles ont ancré l'unité et la cohésion du pays, a-t-il insisté, avant de souligner l'important rôle qu'elles tiennent toujours dans la prestation de services, là où la présence gouvernementale est limitée. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
James Marape a également précisé que l'amendement ne porte pas atteinte aux droits des personnes pratiquant d'autres religions. Il a ajouté que l'article 45 de la Constitution papoue, qui protège la liberté de conscience, de pensée et de religion, reste intact. 18h09, dernière pause dans ce journal avant de revenir à l'actualité sur le territoire et de voir tout le sport.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons enfants !
Allons enfants, un rendez-vous instructif et rigolo à 10h50 et à 15h50.
Eh ouais !
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et direction Koumac, avec la signature d'un partenariat stratégique pour la conservation de la biodiversité et du développement local entre la mairie de Koumac et le Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement d'un projet de jardin botanique au sein de la pépinière polyvalente de Koumac, prévue sur 20 hectares. Il permettra de mettre en valeur les espèces rares et menacées de la province Nord. Les précisions de Nicolas Rinck, responsable du Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie.
Ça nous permet d'aller dans le même sens avec la mairie pour la protection des espèces rares et menacées de province Nord et de différents sites sur lesquels on travaille déjà. Il faut savoir que le Conservatoire botanique, on a des plans de conservation, par exemple sur le Mont Kaala, à Bélec ou au Copéto, où on a des espèces très très rares en danger critique d'extinction, et donc il faut pouvoir les sauvegarder, les étudier, les multiplier, et du coup on va s'associer à la pépinière polyvalente pour protéger ces espèces là-bas, pour savoir les multiplier, et puis aussi pour faire connaître au public ces espèces. Par exemple, Tectaria vieillardi, c'est une fougère dont on n'a qu'un seul exemplaire vivant aujourd'hui dans le milieu naturel, un seul. Donc ça fait partie de choses qui sont au bord de l'extinction et sur lesquelles on a des travaux à faire. Voilà. Donc c'est un bel outil que la commune a mis en place.
La mise en œuvre de ce projet de jardin botanique se fera en lien avec les collectivités, les associations et les coutumiers de la province Nord. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui la journée mondiale du rein. Sur le territoire, 860 patients sont atteints d'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire qu'ils doivent être dialysés ou recevoir une greffe. À l'occasion de cette journée, plusieurs associations se sont mobilisées au Dumbé à Moll pour faire de la prévention. En quelques minutes seulement, les clients se sont fait dépister sur le stand et en cas de mauvais résultat, ils ont été orientés vers un médecin.
Donc là, je vais vous prendre l'attention.
Quand on arrive à un certain âge, il faut effectivement savoir en fait où on en est. Et là, l'opportunité, c'est que je rentre dans un magasin et je vois des personnes en fait pour tester. Et bien, à ma grande surprise, effectivement, il faut que je fasse un contrôle, alors que j'étais serein sur le côté diabète. Maintenant, avec le test que je viens de faire, effectivement, ça m'alerte un peu. Et il faut qu'on prenne au sérieux. Donc là, je vais faire un contrôle un peu plus approfondi.
48, ça fait haut.
Donc là, il faut aller chez le médecin.
Comme je suis arrivée, je voyais les dames, là, monsieur, ils étaient là, puis je me suis dit, allez, je vais me dépister tout de suite. Alors je suis venue, je me suis présentée.
On va vous faire un petit dextro et on va voir le taux de sucre que vous avez dans le sang. Et 0,90 g, c'est très bien, madame. Vous n'avez pas de souci de diabète.
Comme je ne connais pas les maladies de rein, de diabétique, c'est bon, il n'y a rien. Oui.
La situation sociale et sanitaire inquiète tout particulièrement les associations. Certains Calédoniens n'ont plus accès à des structures de soins de proximité depuis les émeutes de l'année dernière. Le nombre de patients admis en dialyse est en forte augmentation, constate en effet l'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On termine ce journal avec le sport sur le territoire et la quatrième et dernière journée des matchs de poule du tournoi international féminin de cricket à Nouméa. L'équipe de France affrontait les Fidji ce matin et c'est une nouvelle fois incliné, Jean-François.
Une petite finale avant l'heure puisque les deux équipes ont perdu les deux premiers matchs qu'elles ont disputés dans ce tournoi contre le Vanuatu et contre les Samoa. Ce sont les Fidjiennes qui ont gagné le toss. Elles ont décidé de commencer la première manche au batting et ont réussi à marquer 115 points. Lors de la seconde manche, l'équipe de France composée, je vous le rappelle, en intégralité de joueuses calédoniennes, devait donc marquer 116 points pour s'imposer. Sacré défi pour les Françaises qui n'avaient marqué que 45 points dans les matchs précédents contre le Vanuatu et 32 contre les Samoa. Et malheureusement, ce matin, malgré une très belle prestation, elles n'ont réussi à marquer que 59 points. Elles s'inclinent donc 115 à 59. La réaction d'Harmonie Connu, joueuse calédonienne de l'équipe de France.
On garde le sourire quoi qu'il arrive. On prend les petites victoires. Voilà, on arrive à aller un peu plus loin dans les overs. On a tapé un peu plus. Et il faut qu'on règle nos défauts de tradis. Il faut qu'on arrive à taper à terre.
Le tournoi reprendra demain matin à 8h30 avec la petite finale pour la troisième place. Elle opposera donc la France aux Fidji, puis la grande finale l'après-midi à 13h30 entre le Vanuatu et les Samoas.
Merci Jean-François Baudin. On passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Alors Nicolas, que vous gagniez le TOS ou que vous soyez au batting, c'est la météo.
Oui, alors cette nuit, le ciel restera chargé en général. Sur le sud-est et au Loyauté, des averses parfois fortes seront attendues avec un risque orageux. Ailleurs, les précipitations seront isolées ou éparses et le ciel deviendra plus lumineux en fin de nuit. Le vent soufflera d'est à sud-est. Au Loyauté, il atteindra 20 à 25 nœuds avec parfois des rafales proches de 35 nœuds. Ailleurs, il sera moins fort avec des températures. Il sera moins fort avec 15 à 22, localement proche de 10 nœuds sur le sud-ouest. Les températures minimales seront comprises entre 22 et 26 degrés, localement sur l'ouest de 20 à 21 degrés. Demain matin, sur l'ouest et le nord, le soleil gagnera du terrain sous un ciel parfois voilé. Ailleurs, le ciel restera plus nuageux avec quelques averses. Elles seront plus fréquentes sur le sud-est et surtout au Loyauté, avec toujours un risque d'orage. Le vent d'est-sud-est s'établira entre 15 et 20 nœuds, localement 20 nœuds à 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds au Loyauté. Sur l'ouest, il sera plus faible, proche de 10 nœuds, Léana.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. Il est 18h15 et c'est la fin de cette édition.